Nzamba.
Nzambira samirana.
Merci de rester à l'écoute de la radio Inzamba Agathe Kakawe. Nous sommes vendredi 9 juillet 2021. C'est le moment de suivre le journal parlé en langue française. À la présentation, Joséphine Johnson-Zimana. D'abord les principaux titres de cette édition. Le président de l'Assemblée nationale, Daniel Gélas Ndavirabe, compare le pouvoir et le vécu de l'ancien président Nkurunziza à celui de Jésus-Christ et que les projets du gouvernement burundais est une émanation divine. Le ministre des Finances, Domitien Ndihokubwayo, donne une semaine à tous les agents de l'Office burundais des recettes travaillant au poste frontalière de Kobilo pour être mutés. Ils sont accusés d'être lents dans l'octroi des services. C'est l'inquiétude au sein des défenseurs des droits de l'homme à Rumonge. Ils craignent la libération d'un infirmier accusé d'avoir violé une fillette. Cette inquiétude se fonde sur la pression du parti au pouvoir. Voilà pour le sommaire.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Le président de l'Assemblée nationale, Daniel Gélas Ndavirabe, dans sa tournée en province Makamba au sud du Burundi, dit que les projets du gouvernement sont l'émanation divine et que le président Nkurunziza a vécu comme Jésus-Christ, le Messie. Ce genre de déclaration est une sorte de somnifère à l'endroit de la population meurtrie par le pouvoir d'Évariste Ndayishimiye dans la ligne tracée par son prédécesseur Pierre Nkurunziza. Déclaration de Charles Ndetidje, président du parti Uprona, elle non reconnue par le pouvoir de Gitega. Reportage signé Jacob Sibomana.
Dans sa tournée en province Makamba, au sud du Burundi, Daniel Gélas Ndavirabe a déclaré que feu président Nkurunziza a vécu comme Jésus-Christ. Pour lui, le fait qu'il a présenté son successeur de sang vivant en
témoignait.
Le président a présenté de son vivant son successeur et cela nous a montré que le bon Dieu est au Burundi. Quand on nous disait prier et le reste Dieu s'en chargera, je me souviens que feu Pierre Nkurunziza, il a dit à maître reprises que le Burundi est une terre de Dieu, qu'aucune armée ne pourra l'attaquer et le vaincre car il aura le combat de l'éternel. Ailleurs, quand un président parle ainsi, dans moins de 3 jours, il meurt.
Le discours tenu par Gélas Ndavirabe n'est pas du tout étonnant parce que c'est la continuité de la rhétorique de feu Pierre Nkurunziza, qui s'est déclaré envoyé de Dieu pour diriger éternellement le Burundi. Avis de Charles Ndetidje, président du parti Uprona, elle non reconnue par le pouvoir de Gitega.
Il ne m'étonne pas, mais c'est plutôt la continuité, c'est dans la logique, dans la vision même de feu président Pierre Nkurunziza, parce que, souvenez-vous, Pierre Nkurunziza a eu toujours une vision messianique du pouvoir pour tenter de légitimer sa volonté de diriger le Burundi jusqu'au retour de Jésus-Christ sur terre pour faire peur au peuple. Il disait que ceux qui s'opposent au sein des DFDD, donc Nkurunziza, puisque c'est la référence, s'opposent à la volonté de Dieu et seront par conséquent châtiés par lui. Ils auront affaire à Dieu lui-même et que des malheurs s'abattront sur eux qui subiront les courroux du bon Dieu qui sera sans pardon et sans pitié.
Pour Gélas Daniel Ndavirabe, la création des coopératives sanguines est une révélation divine aux dirigeants actuels.
Dans la Bible, c'est écrit ainsi, « Occupez-vous des démunis ». Le programme actuel du gouvernement se base sur cela. Il faut aller faire une descente dans le bas peuple, au niveau des collines, pour vous dire que ces coopératives sanguines sont la révélation divine des autorités.
Pour Charles Ndetidje, le fait que le pouvoir du CNDD-FDD cherche à endormir le peuple dans l'obscurantisme, c'est un signe éloquent qu'ils n'ont pas de projet de société à présenter.
C'est un discours creux parce qu'ils n'ont pas de projet de société, ils n'ont pas de bilan à présenter au peuple burundais, donc ils se réfugient derrière l'obscurantisme en référence au pouvoir divin de fait président Pierre Nkurunziza. Bon Dieu, il est magnanime, c'est la bonté, c'est la grâce, c'est le repentir qu'il accepte, c'est le pardon qui acceptent pour ceux qui le demandent. Donc c'est une façon de faire peur au peuple burundais, c'est une façon aussi de cacher leur médiocrité, d'avoir une illusion d'un pouvoir de droit divin, d'un pouvoir populaire pour se faire craindre. Pour cela, c'est une sorte de dictature déguisée qu'ils utilisent. Ils savent pertinemment que le pouvoir CNDD-FDD, le pouvoir légué par le président Nkurunziza, c'est un pouvoir criminel, un pouvoir qui appauvrit le pays, un pouvoir qui affamé le peuple burundais qui croupit dans la misère, un pouvoir corrompu.
Cette croyance du CNDD-FDD a été portée dans la constitution de 2018 en ayant comme chapeau le pouvoir d'émanation divine.
Le discours de Gélas Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale, montre combien le pouvoir se cache derrière la Bible pour camoufler son incapacité à trouver la solution au vrai problème des Burundais. Pour Armel Gilbert Bukiyeneza, qui a récemment écrit le livre « La Bible et la gâchette », cela est la preuve que l'héritage de feu Pierre Nkurunziza ont encore ses anciens compagnons.
Ce discours met en évidence deux choses essentielles. La première, c'est la problématique de l'héritage du fait président Pierre Nkurunziza. Vous vous souvenez, lors de la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance, que le président Ndayishimiye est obligé de faire appel à Pierre Nkurunziza pour justifier pourquoi le Burundi doit normaliser ses relations avec le Rwanda. Alors qu'on sait que si Pierre Nkurunziza était en vie, les choses se seraient passées autrement. Donc il y a un problème d'héritage dans lequel s'inscrit ce discours, parce que c'est un discours que nous avons entendu durant les dernières années de crise politique. Il y a aussi un problème que l'on connaît, de la ligne qu'on nomme souvent la ligne dure du régime, la ligne, je dirais, de ceux qui ne veulent pas entendre une quelconque opposition, qui la ligne sans tolérance, ce qui caractérise d'ailleurs souvent les mouvements fondamentalistes, que ce soit même chrétiens. Ce sont les deux grands problèmes que l'on détecte dans ce genre de discours. Sinon, le Burundi n'a pas besoin des discours religieux. Il a des problèmes concrets, la pauvreté, la mémoire, les problèmes de réconciliation. Des centaines de milliers de Burundis vivent toujours en exil, qui ont besoin de solutions concrètes plutôt que des discours religieux. Mais bien évidemment, ce qu'ils le font, c'est sur base des calculs politiques.
Les défenseurs des droits de l'homme dans la province de Lomongué se disent inquiets d'une éventuelle libération d'un médecin accusé d'avoir violé une fillette. Ce sont des responsables du parti CNDD-FDD au pouvoir qui tentent de faciliter cette libération. Le procès de flagrance était attendu ce vendredi à Lomongué. Les militants en faveur des droits de l'homme demandent un procès équitable. Reportage signé Benny Axela Kana.
Parmi ceux qui veulent faire des manœuvres pour la libération de ce médecin, il y aurait Jean-Claude Ndikuma Sabo, responsable de la province sanitaire de Lomongué, en collaboration avec les responsables du parti CNDD-FDD au pouvoir. Une enveloppe serait prévue afin de corrompre la famille de la victime pour que le suspect soit libéré selon nos sources à Lomongué. Responsable du centre de santé Tchabala en zone Kigwena de la commune et province Lomongué, le médecin en question a été arrêté dans l'après-midi de ce mercredi, accusé de violer une fille de 16 ans. Les faits se sont passés à son service selon toujours les mêmes sources. L'information en rapport avec les manœuvres de sa libération est confirmée par les responsables des organisations de défense des droits de l'homme à Lomongué. Depuis le même jour, il est détenu au cachot du commissariat provincial de Lomongué. Alors qu'un procès de flagrance était prévu ce vendredi, il a été remis à lundi. Une source dans la famille de la victime explique que le père de la fille était au courant, mais il s'était présenté dans une rencontre du conseil communal. Cela est inquiétant selon des défenseurs des droits de l'homme à Lomongué, qui pensent que le parent de la victime serait en train d'être manipulé pour la libération du médecin. Ces défenseurs des droits de l'homme demandent plutôt à la justice de prendre la question en main et de punir exemplairement l'auteur de cet acte, sans considérer son appartenance politique ni son statut. Nous avons cherché Jean-Claude Ndikuma Sabo, responsable de la province sanitaire de Lomongué, pour qu'il puisse s'exprimer sur ce dossier, mais sans succès.
La communauté internationale et l'Union européenne en particulier devraient revoir ses normes sur le respect de la liberté de la presse au Burundi. C'est un message de le CPJ, le Comité pour la protection des journalistes. Tom Gibson, chargé du plaidoyer au sein de l'Union européenne pour cette organisation, condamne l'absence de l'espace des libertés de la presse au Burundi. C'est dans une déclaration que la CPJ a publiée ce jeudi. On écoute plutôt Tom Gibson.
L'espace pour une vraie liberté de la presse n'existe pas au Burundi. On est choqué que le gouvernement a mis les conditions sur Voice of America pour recommencer leur opération. Et pourquoi multiples journalistes doivent continuer de travailler en exil. Et les autorités doivent permettre tous les médias à s'opérer au Burundi, mais sans condition. et les autorités doivent annuler les condamnations de février contre l'exceptionnaliste en exil pour leur complicité présumée dans la tentative de coup d'État en 2015. Les autorités doivent aussi lever les suspensions contre les radios privées, Radio Publique Africaine, Renaissance, et aussi lever le blocage sur le site Iwachu pour que les Burundais puissent le regarder. Par rapport à la communauté internationale, l'Union européenne devrait examiner ses propres normes de quoi il s'agit une vraie liberté de la presse. L'Union européenne défend les droits des journalistes à travailler librement et sans conditions ailleurs au monde. Alors pourquoi pas au Burundi? De la communauté internationale de la liberté de la presse, on va continuer avec le même message. L'espace pour tous les journalistes burundais de travailler librement et en toute sécurité n'existe pas. Jusqu'au moment qu'ils peuvent, l'accès à l'information continuera d'être restreint au Burundi. Ça veut dire que les journalistes burundais ne pourront pas recevoir les informations qui comptent. Ça veut dire les informations sur les droits de l'homme, la corruption et la bonne gouvernance.
Le délai limite de démolition de toutes les constructions érigées anarchiquement à côté des routes et dans des espaces non autorisés est fixé à la fin de ce mois de juillet. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le porte-parole du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il réagit par rapport aux informations qui disaient que le travail de démolition ne se faisait pas correctement. Écoutez Pierre Moliki.
Le rapport de cette émission de vérification indique que cette activité se déroule normalement sans aucune irrégularité dans tout le pays. Les citoyens concernés par cette mesure continuent à démolir eux-mêmes leurs constructions érigées dans des espaces interdits par la loi. Ainsi, sur base du rapport de cette émission et de l'état d'avancement de cette activité, le ministère rappelle ce qui suit. Premièrement, les constructions à démolir sont celles érigées dans les 6 mètres de part et d'autre des routes nationales dans tout le pays. Celles ayant violé les bornes des plans d'urbanisation dans les quartiers viabilisés et celles construites dans les espaces publics ou espaces verts. Deuxièmement, les citoyens concernés qui auraient des réclamations fondées à faire, notamment ceux des détenteurs des autorisations de bâtir régulièrement délivrées par les services compétents de l'État, sont invités à les présenter aux autorités compétentes juste après marquage de leur construction pour démolition. Et troisièmement, les autorités administratives et policières sont enjointes de veiller à ce que cette démolition prenne fin dans tout le pays avec la fin de ce mois de juillet qui leur avait été octroyé comme délai supplémentaire. Et pour terminer, le ministère réitère sa détermination à ramener l'ordre dans tous ses domaines de compétences tels que recommandés par son Excellence, le Père de la Nation, pour le bien commun de tous les Burundis.
Inzamba.
La loi des finances exercice 2021-2022 dispose des nouvelles impositions et taxations. Le gouvernement vise une croissance économique de plus de 3%. Le contenu de certaines impositions nouvelles de la loi des finances avec Delicia Kamikaze.
La nouvelle loi des finances au titre de la gestion budgétaire à l'article 114, une nouvelle taxation sur le coût d'achat des mégabytes pour les usagers de la téléphonie mobile, une taxation additionnelle de 20% sur les tissus importés dans la moustiquaire. Une autre imposition nouvelle concerne les détenteurs de véhicules et motocyclettes et autres types de motos à moteur. L'article 65 de la nouvelle loi des finances instaure une redevance annuelle routière, une redevance qui varie selon la catégorie du véhicule concerné. Cette redevance doit être impérativement payée avant le 31 octobre, au risque de payer une amende de 50% au redevable retardataire. La même loi des finances précise aux dispositions suivantes que le véhicule exerçant le transport en commun doit payer forfaitairement une redevance annuelle de 100 000 francs burundi. Ce projet de loi portant fixation du budget général de l'État exercice 2021-2022 a été promulgué par le président de la République le 25 juin dernier. Elle fixe les dépenses de l'État à plus de 1 557 milliards de francs burundi. Les charges de l'État connaissent donc un accroissement de 8,4% par rapport au budget de l'État de l'année précédente.
Selon Faustin Dikoumana, président de la PARSEM, l'initiative du gouvernement est bonne, mais le gouvernement devait plutôt mobiliser les financements extérieurs pour relancer l'économie du pays. Et cela épargnera le Burundi lambda, qui est aujourd'hui plongé dans une pauvreté sans nom.
Malgré cette augmentation des taxes, on voit que la collecte des taxes, par exemple, cette année fiscale, c'est autour de 1600 milliards. Ce n'est pas 1 milliard de dollars. C'est peu par rapport aux besoins immenses des Burundais. Et l'endettement explose. L'endettement intérieur est à plus de 2700 milliards de francs et l'endettement extérieur à plus de 1 milliard de francs. Ça veut dire qu'on a un endettement de plus de 3700 milliards. C'est plus que le double de la capacité de collecter les taxes. Alors, on est dans une situation de dire, les besoins en infrastructure, par exemple, pour booster la croissance économique, la BAD les avait évalués en 2010 à plus de 6 milliards de dollars. Alors qu'aujourd'hui, avec, par exemple, ce changement climatique, on constate des besoins de plus en plus consistants dans le financement des infrastructures, les routes, les ponts, barrages hydroélectriques, par exemple, la construction du port de Bujumbura, l'aéroport international de Bujumbura. Donc, nous avons des besoins immenses. Comment parvenir à mobiliser de l'argent? J'imagine qu'à un certain moment, même la taxation intérieure pourra arriver à bout de souffle. Ou arriver au principe là, des hauts taux qui tirent les toto. Plus on continue à augmenter les taxes, plus on en collecte moins. Comme recommandation, alors, je demanderais vraiment surtout au ministère des Finances de penser vraiment à concevoir ce qu'on appelle la stratégie de mobilisation des ressources extérieures. D'abord, il faut réapprendre à appliquer les principes de CPIA et du doing business. Le CPIA, le Country Policy Institutional Assessment, pour évaluer nos institutions, les rendre beaucoup plus opérationnelles pour éviter le risque financier, capable de mobiliser des financements extérieurs, que ce soit sur le marché financier, que ce soit auprès des bailleurs de fonds traditionnels, même voir comment reprendre la coopération. Quand au secteur privé, il faut alors aussi apprendre à faire l'analyse sur le doing business pour mobiliser les financements dans le secteur privé.
Tous les agents de l'Office burundais des recettes et les déclarants pour les agences en douane en poste à Kobero, à la frontière entre le Burundi et la Tanzanie, doivent être mutés dans une semaine. La décision a été prise par le ministre des Finances et la Coopération au Développement. Domitien Ndibokougayo effectuait hier jeudi une visite surprise à ce poste frontalière. En cause, la lenteur non justifiée dont font preuve ses agents dans l'octroi des services aux commerçants qui font entrer les marchandises au Burundi. À ce sujet, le LICOM estime que toutes les décisions prises doivent l'être dans le strict respect de la loi. Les précisions de Blaise Nijimbere.
D'un ton sévère, le ministre des Finances explique la mesure de remplacer les agents du service de vérification des douanes et les déclarants. La mauvaise qualité des services offerts par les employés concernés par la mesure entraîne un manque à gagner pour le trésor public. Selon le ministre des Finances, la mesure a été donc prise pour faciliter le passage des marchandises au poste frontière de Kobero.
On aura une nouvelle équipe à Kobero et on verra si cette équipe-là va prendre des mesures qui s'imposent pour débloquer la situation afin de protéger d'abord le trésor public mais aussi afin de répondre aux demandes du ministre Stadel.
De son côté, le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques fait remarquer que cette solution n'est pas adéquate.
C'est vrai, ça peut être considéré comme une sanction, mais il faut savoir que cette sanction ne va pas vraiment corriger les choses. C'est un acte administratif normal qui est utilisé chaque fois que l'autorité habilitée constate qu'il est nécessaire que cet acte soit posé.
Selon toujours Gabriel Roussili, de telles mesures doivent être prises en respectant la loi.
Il importe que les serviteurs publics, tout ce qu'ils sont en train de faire, respectent la loi, que ce soit pour la protection de la chose publique, mais aussi protéger les fonctionnaires de l'État s'il s'avère qu'il y ait des infractions ou des fautes administratives commises. Il faut qu'il soit sanctionné conformément à la loi. Ça doit être une politique générale, pas seulement des actions isolées de X ou Y.
Pour rappel, le ministre des Finances avait dernièrement fait une autre descente à l'Aubert au bureau chargé d'immatriculation. Parmi les lacunes observées dans l'exécution des tâches quotidiennes, figurait à l'intérieur dans le traitement des dossiers et des soupçons de corruption et de mauvaisation économique.
Voilà, madame, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Nous vous souhaitons de passer une agréable soirée chez vous et un très bon week-end. Au revoir et à la prochaine.